Avant d'aborder notre sujet, arrêtons-nous quelques instants pour considérer cette multitude d'anges qui est là avec nous, au-dessus de nous, en dessous de nous, qui est là tout autour de nous. Ces anges veillent sur nous, prient Dieu, louent, chantent. Ils sont là à nos côtés, ils nous éclairent, nous illuminent, nous sanctifient, ils nous aident à avancer. Ces anges sont nos amis sur le chemin qui nous mène tout au long de notre vie jusqu'au ciel. Nous allons donc essayer ici d'abord de retracer une histoire de ce qui a pu être dit sur les anges, puis d'apporter une petite synthèse sur ce qu'ils sont et sur toutes les hiérarchies angéliques. Il y a des auteurs par le passé qui ont dit des choses intéressantes comme Denis l'Areopagite au 5e ou 6e siècle, ou Saint Thomas d'Aquin au 13e siècle. Mais ce qu'il faut tout de suite voir, c'est qu'il n'y a pas de doctrine bien établie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'essais, beaucoup de personnes ont tenté tout un tas de suppositions sur le monde angélique. Mais il y a largement la place pour continuer à chercher, pour trouver le vrai dans tout cela. Aujourd'hui, l'on constate que parler des anges paraît farfelu d'un côté ou fascinant pour d'autres. Parfois pas très raisonnable, irrationnel. Mais l'art et la liturgie leur donnent une grande place. Dans nos messes, nous chantons le Sanctus, le Gloria, qui sont des hymnes angéliques dans l'Apocalypse ou dans les évangiles. Dans les Écritures saintes, les anges sont partout, dans presque toutes les pages. Si l'on revient maintenant dans l'Antiquité, avant l'ère chrétienne, les gens ont pensé qu'il y avait dans les sphères célestes, au-dessus de la Lune, un certain nombre de dieux, de génies ou d'idées éternelles. Ils habitaient vraiment pour eux physiquement dans ce monde supralunaire et là où nous étions dans le monde sublunaire, ils venaient parfois nous rencontrer pour agir dans nos vies. C'est l'origine de l'astrologie où, étudiant le cours des étoiles, qui sont donc dans le domaine des dieux, nous pouvions voir comment ceci interférait chez nous. Les anciens pensaient aussi que nous étions tous rattachés à un dieu particulier. Avec Abraham et les Hébreux, nous voyons apparaître la croyance en un dieu unique qui évacue tous ces dieux. Mais nous voyons aussi apparaître progressivement les anges qui sont au service de ce Dieu. Mais d'abord, c'est l'ange du Seigneur qui sert de messager et qu'on a parfois du mal à distinguer de Dieu lui-même. Puis nous voyons des anges combattants, notamment dans les eschatologies. Nous voyons des anges autour de Dieu, comme les séraphins, les chérubins. Nous voyons des anges pour les nations. Cette apparition de plus en plus grande du monde des anges est notamment liée à la déportation à Babylone ou confrontée aux conceptions de ces autres civilisations, le judaïsme s'est approfondi et enrichi. Nous voyons aussi apparaître progressivement une séparation entre les anges bons et les anges mauvais. Puis quand Jésus vient, nous voyons aussi beaucoup d'anges autour de lui. À l'Annonciation, à Noël, au désert, à Gethsémani, à la résurrection, ainsi beaucoup de démons qui cherchent à s'opposer à lui et qu'il arrive à vaincre ou à chasser. Le Christ apparaît comme victorieux sur tous les anges qui lui sont soumis. Il est le chef des anges, c'est un peu révolutionnaire et cela a marqué beaucoup les premières communautés chrétiennes qui ont vu qu'ils n'étaient plus soumis aux puissances, aux principautés, aux souverainetés, aux dominations, lorsqu'ils invoquaient le nom de Jésus-Christ. De par l'inhabitation de Dieu dans l'âme qui arrive dans le christianisme, on arrivait à penser que chaque personne avait un ange gardien, et que les anges n'étaient pas seulement les gardiens des nations ou des communautés, mais passé de cet aspect communautaire à l'aspect personnel. On a gardé longtemps encore la vision de la séparation entre le monde sublunaire et le monde supralunaire. Quand Jésus part à l'ascension vers le ciel, c'est vraiment l'imagination que Jésus traverse toutes ces sphères célestes au-dessus de nous, ces sphères imbriquées les unes dans les autres, où plus l'on s'éloigne de la terre, plus l'on arrive dans le domaine qui est celui de Dieu. Avec les apôtres, on voit aussi beaucoup d'anges dans les actes des apôtres. Puis au Moyen Âge arrivent des synthèses sur tous ces anges qui ont beaucoup marqué les premiers siècles de l'histoire chrétienne et qui trouvent aussi dans le platonisme une aide pour arriver à davantage penser ce monde. C'est un monde très hiérarchisé avec de l'ordre, un ordre dont on voit une certaine équivalence entre ce monde angélique et l'Église et le monde. Mais un ordre peut-être un peu trop figé et descendant, qui laissera peut-être des traces dans notre manière de penser un monde très hiérarchique. Pour le Moyen Âge, c'est encore les anges qui font bouger les étoiles et les planètes de l'univers. La question qui occupera beaucoup de gens et qui est assez connue est celle du sexe des anges. Les anges ont-ils un sexe? De fait, on a fini par comprendre que les anges étaient bien loin de la matière, comme les dieux, même si c'est à mi-chemin entre Dieu et nous, eux, ils sont purement spirituels. Mais cette question du sexe des anges occupera notamment l'Orient, et on raconte que quand les musulmans ont envahi Constantinople, une assemblée de doctes théologiens discuter encore du sexe des anges. On dit cela pour la blague. Avec la modernité et le bouleversement cosmologique de Copernic et Galilée, le monde supralunaire n'est plus l'apanage des anges et de Dieu, puisque finalement, il n'y a qu'un seul univers, il n'y a pas une division au niveau de la Lune, entre en dessous le monde des hommes et au-dessous le monde des anges ou de Dieu. Tout le ciel, finalement, est aussi notre domaine. Et de cette révolution un petit peu cosmologique arrivera, avec Descartes et d'autres, une sorte de révolution métaphysique qui chercheront à repenser les choses à partir de la raison, où les anges, qui paraissent assez suspects, seront abandonnés. La raison est donc le fondement qui éclaire le monde. Et on cherche maintenant à donner aux hommes ce qu'on attribuait aux anges. C'est une promotion de l'homme, mais en fait, ce qui est une perte, car on n'est plus éclairé par ce monde qui est au-dessus de nous, et on s'enfermera progressivement dans une certaine ténèbre. C'est de fait cette postmodernité où nous sommes, où nous n'arrivons plus à trouver de fondement, d'appui, de direction, de finalité, où tout semble mouvant, car nous avons perdu cette assise du monde supérieur, des anges et de Dieu. Avec la psychologie et Freud, on se met à dire que les anges représentent en fait notre inconscient, que c'est une manière de parler des forces qu'il y a dans les profondeurs de notre inconscient. Cette perte du sens du monde supérieur contribue à ce qu'on appelle le désenchantement du monde et sont aussi la cause que notre monde semble vraiment ingouvernable, qu'il y a beaucoup de conflits, de divisions, puisque nous avons perdu l'unité qui nous venait d'en haut. Cependant, aujourd'hui, les anges fascinent encore. Beaucoup aiment en parler, aiment les invoquer, qu'ils soient dans l'Église ou hors de l'Église. C'est un renouveau qui est en fait en germe. avoir un ange gardien est pour beaucoup une bonne nouvelle. Et finalement, c'est un moyen de s'ouvrir progressivement au monde d'en haut. Les anges, par ailleurs, sont agissants. Beaucoup ressentent leur présence, beaucoup sont touchés par des attentions qu'ils nous portent. On s'aperçoit que les anges sont dans la pratique très importants pour s'ouvrir au monde d'en haut. Les anges sont des messagers, des envoyés, c'est le sens de ce mot ange, messager. Ils sont là pour louer, adorer, transmettre, servir. Ils permettent de porter l'unité du monde. Ce sont des purs esprits, ils sont spirituels et non matériels. Ce sont des personnes faites pour aimer, connaître, choisir. Ils sont donc à mi-chemin entre nous et Dieu. Spirituels comme Dieu, mais des créatures comme nous. Ce sont des plénitudes d'être avec un agir dans le monde spirituel et une capacité d'agir dans le monde matériel. Par la grâce que Dieu leur donne pour ceux qui l'ont accueilli, ils sont devenus fils de Dieu, incorporés au corps du Christ, membres de l'Église. Certains ont donc fait le choix de servir Dieu, ce sont les bons anges. Mais certains ont choisi de refuser Dieu, ce sont les démons. Dans certaines traditions, on dit que c'est autour de la vision de l'enfant Jésus que s'est fait leur choix. Allait-il servir l'incarnation de Dieu? Allait-il choisir cette bonté de Dieu qui s'abaisse jusqu'à devenir petit enfant? Les anges, d'après Denis l'Aréopagite, ont trois fonctions. Il dit purifier, illuminer, parfaire. Mais le terme de purifier aujourd'hui serait plutôt à comprendre dans le sens de sanctifier. Le fait purifier et sanctifier ont la même origine et le même sens si l'on se rapporte au sens de la purification antique. Les anges sanctifient, c'est-à-dire qu'ils nous manifestent les mystères de Dieu, ils nous les rendent présents, ils nous les font goûter, nous en donnent la saveur, ils nous aident à entrer dans la vie divine et dans sa sagesse. Les anges nous illuminent, ils nous font entrer dans l'intelligence des mystères, ils nous aident dans notre contemplation de Dieu et notre quête de vérité. Les anges nous parfaient, ils nous protègent et nous aident, ils agissent avec nous et pour nous. Ils nous aident dans nos capacités à agir. Ils sont à l'œuvre pour que le monde matériel atteigne une perfection qui le dépasse. Ce qu'il faut voir, c'est que Dieu aime se servir d'intermédiaires. Il aime se servir des anges et des hommes comme participants de ce qu'il est. De fait, il demande à des hommes de servir de parents à d'autres, d'enseignants. Il se sert de nous pour témoigner de son amour à beaucoup de gens et donc il aime se servir des anges pour tout un tas de missions et d'actions. Les anges sont organisés en hiérarchie. Nous allons présenter la vision la plus commune, complétée de ce qui nous a semblé être le plus pertinent. Il y a neuf chœurs angéliques répartis en trois hiérarchies. La première hiérarchie est dévolue à la louange de Dieu. La deuxième hiérarchie sert de communication entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la première hiérarchie et la troisième hiérarchie. La troisième hiérarchie a mission de servir sur la terre, d'aider les hommes et le cosmos à avancer, à cheminer. Dans la première hiérarchie se trouvent les séraphins, les chérubins et les trônes. Les séraphins sont ces sept esprits de Dieu, brûlants, flamboyants, autour du trône, qui louent sans cesse en présence de Dieu. Ils sont assistés des chérubins et des trônes, et d'après les visions de l'Apocalypse, On peut penser que chaque séraphin a quatre chérubins et 24 trônes pour l'assister, ce qui fait 28 chérubins et 168 trônes. Les dominations, les vertus et les puissances montent et descendent entre la première et la troisième hiérarchie pour servir le projet de Dieu, pour propager la lumière de Dieu dans le monde. Ils servent en fait à organiser toute la communauté céleste. Ils sont sûrement des milliers, des millions, des milliards. La troisième hiérarchie sont les gardiens des ordres, des pays, des églises, des institutions, les gardiens des personnes, les gardiens de tout ce qui est dans ce monde terrestre. Ce sont les principautés, les archanges et les anges. Ils sont des myriades de myriades et sûrement au niveau des anges, aussi nombreux que le nombre de planètes dans l'univers. Il y a donc tout lieu de penser que le nombre de galaxies dans l'univers correspond au nombre de puissances, ces anges du sixième cœur, et que le nombre de planètes dans l'univers correspond au nombre d'anges du neuvième cœur. Car il y a toutes les raisons de penser que le cosmos, ce monde matériel, est à l'image de ce monde céleste. Et à travers toutes ces hiérarchies, depuis Dieu qui existe dans son immensité jusqu'à Dieu qui est dans son incarnation, les anges servent le mystère de Dieu. Les anges, nous l'avons dit, louent sans cesse en présence de Dieu dans la première hiérarchie, montent et descendent comme messagers dans la deuxième hiérarchie, et sont en mission sur la terre dans la troisième. Nous avons tous un ange gardien qui est un ange de ce dernier cœur de la troisième hiérarchie. Mais l'on est en droit de penser que chaque ange a aussi un ange gardien dans le cœur supérieur. Les anges supérieurs protégeant plusieurs anges inférieurs. Ce qui fait des lignées angéliques qui se répandent de cœur en cœur. Nous sommes donc tous rattachés à un ange gardien, lui-même rattaché à un archange, lui-même à une principauté, et ainsi de suite, jusqu'aux chérubins et aux séraphins, ce qui fait pour chacun de nous des colorations d'âme, pour chaque ange des familles. Des traditions assez établies laissent à penser que chaque ange est le reflet d'une perfection divine. Il y aurait l'ange de l'amour, l'ange de la paix, l'ange de l'harmonie, l'ange de la joie, l'ange de la douceur, l'ange de la tendresse, l'ange de la communion, l'ange de la force, l'ange de la vie, l'ange de la poésie. Qu'il y ait ainsi des perfections qui louent Dieu dans ce qu'il est, ce qui serait plutôt la première hiérarchie. Dans son agir en lui-même, ce qui serait la deuxième hiérarchie, et dans son agir envers le monde créé, ce qui serait la troisième hiérarchie. Ainsi, chaque être humain est lié à certaines perfections divines en fonction des anges de sa lignée angélique. Plutôt que de s'intéresser aux signes astrologiques, il semble beaucoup plus intéressant de chercher à découvrir ces lignées angéliques au travers des perfections qui se manifestent dans les personnes. On découvre ainsi sept grandes colorations, puis 24, puis 168, puis un nombre immense. Cela est vrai pour les personnes, mais aussi pour les communautés et les pays. Et on voit que chaque pays a en fait vocation à refléter la perfection angélique d'un ange du premier cœur, et qu'il se dessine sept grands ensembles dans le monde pour les sept séraphins. Dans chaque pays se trouvent des personnes liées aux différents anges, car pour refléter une perfection particulière, nous avons besoin d'être en interaction avec toutes les autres perfections. De même que chacun de nous avons besoin des autres pour vivre vraiment notre spiritualité. C'est ainsi tout un monde qui se dévoile à nous. Le monde des anges se rend manifeste en regardant ce qui est déposé, ce qui se vit dans le monde. Ce qu'il faut ajouter, enfin, c'est qu'il apparaît que des anges, des cœurs inférieurs et des hommes sont les représentants pour leur cœur, pour l'humanité, des anges des cœurs supérieurs. On voit ainsi l'ange Raphaël, qui est un archange, un ange du huitième cœur, dire dans le livre de Tobie qu'il est l'un des sept qui se tiennent en présence de Dieu. Il dit en fait qu'il est l'un des sept représentants de son cœur, représentant des sept séraphins. Il y a ainsi dans chaque cœur et dans l'humanité des représentants des sept séraphins, des chérubins et des trônes. On voit ainsi dans l'humanité des personnes qui ont une grande influence sur leur époque, leur génération, pour un temps plus ou moins long. On voit ainsi que ce n'est pas non plus quelque chose de figé, car ces représentations changent. Il y a donc une rotation de fonctions avec les années, les époques. Il y a un séraphin qui va présider la liturgie, puis un autre, ce qui marque en fait un millénaire mystique. On peut penser qu'un séraphin a ouvert le premier millénaire avec Adam, puis un deuxième, peut-être avec Noé, un troisième avec Abraham, un autre avec David, un autre avec Jean le Baptiste et Jésus, un autre encore pour le deuxième millénaire de l'ère chrétienne, au moment peut-être de Saint Bruno, et qu'un nouveau va encore s'ouvrir. Il y a ces grands millénaires qui s'ouvrent, puis après, il y a une succession de présidences à la liturgie et aux différentes fonctions. On voit ainsi des grands saints apparaître, Saint Augustin, la petite Thérèse, Saint François d'Assise, Saint Dominique, qui représentent chacun des séraphins, des chérubins ou des trônes. Il y a d'autres représentants pour les anges des autres cœurs. Et l'on peut penser que ce jeu de rotation de fonctions et de représentations se perpétuera dans l'éternité où la vie continue à se déployer, que nous passerons tous un jour à ces représentations pour soit exprimer, même avec le séraphin qui préside la liturgie, tout notre mystère, ou à d'autres places pour contribuer à la liturgie, à célébrer d'autres mystères particuliers. Ou alors que nous assisterons, nous participerons à la vie depuis notre simple place, depuis notre royaume ou notre maison, mais en préparant finalement toutes ces rotations où nous serons participants. Aujourd'hui, voilà, il faut noter que quand quelqu'un dans l'humanité semble avoir une certaine aura ou une certaine capacité de penser, d'agir hors du commun, on peut penser qu'il y a en fait un ange à ses côtés, un ange d'un cœur supérieur qui l'assiste. Cela est vrai bien sûr pour les anges bons, mais aussi malheureusement pour les anges des ténèbres qui singent la liturgie divine et cherchent à créer un monde d'empire en se servant de personnes particulières. Nous achèverons notre propos en parlant juste assez brièvement du mystère d'Israël et de celui de la Sainte Famille qui sont intimement liés, pour dire que autant chacun de nous avons un ange gardien et entrons dans ces rotations de fonctions. autant Jésus, Marie, Joseph, et tout finalement le mystère d'Israël pris comme nation, non pas dans ces autres personnes, sont en fait protégés par tous les anges, et pas seulement par un ange particulier, et qu'ils sont toujours présidents de la liturgie. De fait, Jésus, bien sûr, est le Seigneur Dieu, prince de tous les anges. La Vierge Marie est la reine des anges. Elle veille sur tous les anges. Et Saint Joseph, qui est aussi plus grand que tous les anges par son action dans sa contribution au mystère de l'incarnation. On peut penser, je pense à juste titre, qu'il est au-dessus de tous les anges et qu'il est pour toujours le gardien du royaume par excellence. Quant à Israël, pris comme peuple de Dieu, l'on peut dire qu'il ne n'est pas comme une autre nation qui serait l'expression d'un ange particulier, d'une perfection angélique, d'un des anges du premier cœur, mais qu'il est finalement le représentant de Dieu lui-même ou de toutes les perfections prises ensemble. Pour finir cette courte présentation du monde angélique, nous pouvons reprendre une prière aux anges glorieux. Ô anges des glorieuses hiérarchies, vous qui chantez sans fin la gloire de Dieu, entraînez-nous dans votre chant afin que toute chose ne puisse plus se comprendre que dans la lumière d'amour de notre Dieu. Faites irruption dans notre monde afin de le renouveler par votre présence, votre lumière et votre agir. Que toutes nos activités et nos entreprises s'inscrivent dans une union bienveillante avec vous. Et faites qu'advienne enfin ce monde de la civilisation de l'amour que Dieu a voulu de toute éternité. Amen.